Président, bonjour à toutes et à tous. Et ben, je vais essayer de vous présenter ce personnage qui mérite d'être connu, mais qui l'est en général jamais aussi, et qui a passé une très petite partie de sa vie en Égypte. Alors, d'abord, vous le voyez ici, Jomar aîné à gauche, c'est quand il était présent en Égypte, dans la campagne d'Égypte, on va en parler. Et puis, vous voyez quelques années plus tard, sa signature, membre de l'Institut. Déjà, ça pose quelqu'un aussi, c'est donc quelqu'un, un savant, quelqu'un de bien. Pour ce faire, et si vous voulez connaître un peu mieux ce personnage, vous pouvez consulter un ouvrage d'Yves Lessu qui date d'une vingtaine d'années, Jomar, le dernier Égyptien, et puis un numéro spécial de la revue de l'école polytechnique, parce que Jomar était polytechnicien, et c'est un numéro de 2012 qui date du 150e anniversaire de son décès. Alors, pour débuter la vie de Jomar, j'aimerais qu'on aille à la fin de sa vie, qu'on commence par un ouvrage qu'il a publié en 1854, comme plein d'autres. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit un petit peu en dessous, ici, là, sous le nom de Jomar, membre de l'Institut. Je vais essayer de vous le lire très rapidement, parce que ça vaut son pesant d'or. Membre de l'Institut de France, conservateur de la collection géographique de la Bibliothèque impériale. Ça va peut-être aller. Voilà, c'est mieux comme ça, peut-être. Il y a moins d'écho. Voilà. Donc je reprends. Membre de l'Institut de France, on l'avait déjà dit, conservateur de la collection géographique de la Bibliothèque impériale, associé correspondant des Académies royales des sciences de Berlin, de Turin, de Naples, de l'Académie royale d'histoire de Madrid, de l'Académie impériale des beaux-arts de Vienne, associé étranger de la Société asiatique de Londres, membre honoraire étranger de la Société royale géographique de Londres et de l'Institut historique et géographique du Brésil, membre correspondant de la Société royale des antiquaires de Copenhague, des sociétés géographique de Berlin, de Francfort, de Darmstadt, de l'Institut national des sciences à Washington, de la Société philosophique américaine de Philadelphie, de la Société ethnologique américaine, de la Société historique de Géorgie, de la Société des arts et des sciences de Batavia, ancien ingénieur de l'armée d'Orient et commissaire du gouvernement pour la publication de la description de l'Égypte, l'un des fondateurs et des présidents honoraires de la Société de géographie, ancien directeur de la mission égyptienne de France, officier de la Légion d'honneur, etc., etc., etc. Vous voyez que c'est quelqu'un de bien. Il aurait pu rajouter responsable de la Société pour l'instruction élémentaire de la Société asiatique, de la Société des antiquaires de France, de la Société impériale d'acclimatation, et puis d'autres encore que son biographe a sans doute oublié aussi. Il est présent de quasiment toutes les sociétés savantes de son époque. C'est un très vénérable savant du 19e qui a fait beaucoup de choses. C'est ce que j'espère vous montrer, et qui pourtant aujourd'hui est complètement oublié aussi, puisque vous me dites que très peu d'entre vous le connaissez. C'est dommage, il mérite d'être connu, et c'est ce que je vais essayer de vous convaincre ici, à travers plusieurs points. Alors le premier, on s'intéressera évidemment à l'origine et à l'enfance du personnage, très rapidement. On verra comment il va passer 2 ans en Égypte, lors de la campagne d'Égypte. C'est l'architecte de la description d'Égypte, donc on en parlera aussi. Avec Jomar, il y a un nom qu'il ne faut pas utiliser, c'est Champollion, mais on parlera quand même du déchiffrement des hiéroglyphes et de Champollion, hein, puisque c'est peut-être pour ça qu'il est moins bien connu. C'est indiqué dedans également, il est intervenu dans l'enseignement mutuel, c'est quelque chose, un système d'instruction qui se développe au début du 19e. C'est lui qui s'occupe de l'école égyptienne de Paris. Il a été le fondateur du service du département des cartes et plans de la Bibliothèque royale à l'époque et donc de la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui. On vous dit qu'il est l'un des fondateurs de la Société de géographie, et puis on verra comme il se doit évidemment ces dernières années aussi. Alors tout d'abord que ses origines, elles sont bourguignonnes. Donc ça commence bien. Quelques-uns de ses ancêtres ont acheté des charges sous l'Ancien Régime auprès de la Chambre des Comptes de Bourgogne à Dijon. Alors très vite, une des branches s'installe à Lyon, fait le commerce des fameuses soieries de Lyon, bien sûr, et son père, Nicolas Jomar, marchand et fabricant en étoffe de soie, s'installe à Paris en 1762, avant de se fixer à Versailles. Il y a plus de clients à Versailles, même auprès de la cour en soie, qu'à Paris, ce qui favorise son commerce. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur Internet, on trouve absolument tout, y compris l'arbre généalogique de Jomard. Alors, c'est fait par des ordinateurs un peu modernes. C'est vrai que ça tranche avec les documents du 19e que je vais vous montrer, mais c'est un petit peu, c'est pratique tout de même. Voilà, donc vous avez, je ne sais pas si on voit la souris. Oui, très bien. Donc, vous avez ce Nicolas Jomard ici, qui est le père de notre Edmé François Jomard. Et il se marie avec une Louise Marguerite Michel, une jeune femme sans doute très bien, qui a peu d'argent, mais qui est de bonne famille. La famille de Louise Marguerite Michel, en tout cas, a suivi l'exil du roi Jacques II Stuart en France au XVIIIe siècle, fin du XVIIe. Avant la Révolution, la famille est donc plutôt riche, hein, puisqu'elle vend les soieries à la cour de Versailles. On nous dit même que la famille a prêté 40 000 livres au duc de Biron. Ici, 40 000 livres, c'est quand même énorme. Ça ne lui a pas porté chance, hein, puisque le duc a été guillotiné pendant la Terreur. Selon la tradition familiale, d'ailleurs, le duc qui aurait reconnu Madame Jomard, dans la charrette qui l'emmenait à l'échafaud, lui aurait crié « Ne craignez rien, madame, mes héritiers vous paieront ». Très bien. Sauf que dans l'inventaire après décès de l'épouse de Madame Jomard, en 1833, donc 40 ans plus tard, on indique que cette créance est toujours mentionnée, mais elle est qualifiée de tout à fait désespérée, ce qui veut dire que les Jomard sont un peu ruinés, et par la créance au duc de Biron, puis surtout par la Révolution française, parce qu'après les journées d'octobre de Versailles en 1789, il n'y a plus grand monde qui reste et qui achète de la soie à Versailles. Bref, la famille Jomard s'installe à Paris, ruinée, dans le quartier de Belleville, avec une situation financière des plus précaires. Edmé François Jomard naît le 17 novembre 1777, alors juste avant que la famille ne parte il est né à Versailles. Si vous regardez bien, vous voyez ici les parents de la famille Jomard, et vous avez ici les fratries de la famille Jomard. C'est donc, alors, comme sous l'Ancien Régime, ça ne nous surprend pas beaucoup, hein. Ici, il y en a 12 qui ont été trouvés par le généalogiste. La mémoire familiale fait état de 14 enfants. C'est beaucoup. Ce qui est quand même terrible, c'est qu'il y en a 3 qui vont atteindre l'âge adulte. C'est-à-dire que la famille Jomard a perdu 11 des 14 enfants en bas âge. C'est là beaucoup plus que la moyenne de la mortalité infantile à l'époque, hein. Donc elle est particulièrement touchée. Donc il n'aura qu'en 1800, il n'a qu'une sœur, Louise Henriette, et puis son frère Jean-Baptiste, on en parlera un tout petit peu. Il va faire quelques études, hein, on l'envoie d'abord dans un collège de Versailles, hein, quand la famille habite encore Versailles, puis ensuite à Paris, au collège Mazarin, donc très bon collège, très bonnes études, c'est un très bon élève, pas de difficultés de ce côté-là aussi. Sa vie va basculer quand Madame Jomard mère donc va rencontrer en 1794 le fondateur de l'école des Ponts et Chaussées qui lui parle de son fils. L'ingénieur lui propose de le faire venir. Edmé François passe une audience en 1794 et devient un élève de l'école à 16 ans aussi. Alors pourquoi se mettre devenir élève de cette école? Vous savez que la Révolution, la Convention a voté un décret de levée en masse d'août 93 pour tous les jeunes de plus de 18 ans, et entrer dans l'école, c'était une façon d'être exempté des obligations militaires. Jomard n'a pas du tout la fibre militaire. Il est destiné à devenir ingénieur des Ponts et Chaussées, mais il va très vite en fait bifurquer. Peut-être parce qu'il est déçu par l'école des ponts, on ne sait pas trop. En septembre 1794, l'école centrale des travaux publics, celle qui va s'appeler tout de suite l'école polytechnique, est créée et puis recrute. Jomard y postule, il passe l'examen avec succès et à 17 ans, il fait partie de la première promotion de l'école polytechnique. Avantage ici encore, c'est que les élèves sont salariés durant 3 ans, donc ils sont payés, c'est bien pour une famille qui est ruinée aussi. Les conditions sont quand même très très difficiles, on nous dit que la première promotion, les élèves sont payés en assignat, c'est-à-dire, vous savez, en rien du tout, en fait, ils sont mal nourris, mal chauffés, mais bon, c'est comme ça. Ils sont en plus plutôt royalistes, hein, ils n'hésitent pas à manifester contre la convention ou le directoire, mais bon, on y fait des bonnes études et c'est tant mieux. Au bout de 2 ans, chaque élève doit choisir dans quel corps d'ingénieur il veut se spécialiser. Jomard choisit d'entrer à l'école des ingénieurs géographes. On ne sait pas pourquoi. On sait simplement que cette école... Vous peut-être éloigner un peu. Je vais essayer de parler un peu moins fort, peut-être.
Non,
aussi.
Non, non.
Je touche plus, je touche plus.
Le micro est juste devant.
Très bien. Et donc, en tout cas, il part dans cette école des ingénieurs géographes sans qu'on sache pourquoi, mais c'est bonne pioche. Le destin va frapper à sa porte et lui faire rencontrer la passion de sa vie, c'est le deuxième point, l'Égypte. Vous savez qu'en 1798, Bonaparte prépare en secret une expédition militaire pour lutter contre l'Angleterre, c'est l'Égypte. Les participants ne savent pas du tout où ils vont, mais Bonaparte souhaite adjoindre une armée de savants à son armée de soldats. Il fait donc appel aux membres de l'Institut de France, dont il fait lui-même partie dans la section mathématiques. Donc il fait appel à Monge Berthollet, fondateur de l'école polytechnique, lui aussi. Berthollet, qui y enseigne, pense d'abord à recruter leurs élèves. Jomard fait partie tout simplement de la promotion. Il accepte de partir sans savoir où il va. En avril 98, mais sans savoir comme tout le monde, hein, il n'y a que quelques personnes qui sont dans le secret de la destination finale. Donc en avril 98, il reçoit l'ordre de regagner Lyon, puis Toulon, et il s'embarque avec les ingénieurs géographes. C'est dans le navire de guerre qui s'appelle le Généreux. Chose un peu curieuse, il y va en famille, puisque son frère, qui s'appelle Jean-Baptiste Jomard, son frère cadet, surnommé l'ami Jomard, ou Jomard jeune, est engagé lui aussi comme élève, c'est-à-dire comme savant, élève ingénieur des ponts et chaussées. Il a suivi la même voie que son frère, mais lui, il y est resté. Donc vous le voyez, ce Jomard, tel que dessiné à l'époque par André Dutertre. Dutertre, c'est un autre savant, mais un dessinateur, si l'on peut dire, un artiste de la description de l'Égypte, et qui a croqué énormément de ces savants. Pas tous, mais au moins une centaine. Et donc vous avez le portrait de Jomard aîné, parce que justement, son frère cadet, dont on n'a pas le portrait, il est moins important, ça fait permettre de distinguer les deux frères. Voilà. Il arrive à Alexandrie le 1er juillet 1798, et dès la prise de la ville, les collègues de Jomard sont chargés de dresser le plan de la ville. Alors vous avez d'abord ici une superbe gravure de la description de l'Égypte, bien sûr, sur Alexandrie, le port d'Alexandrie. Par contre, je crois que, voilà, je me suis juste trompé d'ordre. Voilà, vous avez ici un des plans que réalisent les ingénieurs géographes. Je ne peux pas vous affirmer que celui-ci, c'est Jomard qui l'a réalisé. On sait qu'il l'a réalisé en 98-99. On a ce plan d'Alexandrie qui existe en 1799, donc sans doute qu'il en fait... Il participe à sa création. Maintenant, j'en ai pas la preuve absolue. Il arrive au Caire à la fin du mois de septembre, une fois que sa carte est faite, là où l'Institut d'Égypte est fondé. Alors, je vais essayer de revenir en arrière, parce que comme du coup... Les flèches, exactement. Merci beaucoup. Donc vous voyez ici ce fameux Institut d'Égypte, hein, qui est censé reproduire l'Institut de France, mais au Caire, avec, vous voyez là, voilà, pardon, le général Bonaparte, qui est membre de l'Institut d'Égypte, vous le voyez rentrer, accueilli par Berthollet ici, et évidemment suivi par Monge, les deux Berthollet et Monge qui sont... qui se suivent partout en Égypte. On les appelle Monge et Berthollet, d'ailleurs, en un seul nom aussi. Jomard, lui, ne fait pas partie des 37 savants de l'Institut d'Égypte. Il est beaucoup trop jeune, hein, on n'a même jamais pensé à lui ici. Mais il va fréquenter cet institut et les savants, et il en garde toujours un souvenir nostalgique. Un demi-siècle après, il écrit, c'est pas dans ses mémoires, mais il fait beaucoup de discours, hein, aux jeunes, et dans un de ses discours dans les années 1850, il écrit « Nous avions de l'autre côté du palais d'Hassan Kachef. » Donc le palais d'Hassan Kachef, vous le voyez ici, vous avez les plans de ce palais, toujours dans la description de l'Égypte. À droite, vous avez les jardins. Donc nous avions de l'autre côté du palais d'Hassan Kachef le vaste jardin de Kassim Bey pour la promenade du soir. La conversation de Fourier, Fourier, je crois, dont on doit, dont vous allez entendre parler demain, un autre Égyptien aussi, faisait le charme de nos entretiens. Monge y développait tantôt ses vues sur l'avenir de l'Égypte, tantôt ses doctrines scientifiques, tantôt des aperçus sur sa chère géométrie descriptive. Il parlait avec chaleur, il colorait tout du feu de son imagination, la beauté du ciel, le parfum des orangers, la douceur de la température ajoutaient encore à l'agrément de ces réunions qui se prolongeaient au milieu de la nuit, souvenir délicieux d'une époque à jamais mémorable. Voilà. Il y a beaucoup de nostalgie dans ces deux années qu'il va passer au Caire. Alors, il est quand même là pour travailler, il va lever le plan de la citadelle du Caire. Il est affecté à la préparation de la carte d'Égypte et il commence à visiter un certain nombre de sites autour du Caire et à découvrir l'Égypte qu'il apprécie. Donc ça, c'est ma carte. Il va réaliser de magnifiques aquarelles. Vous en voyez une ici, c'est un temple autour du Fayoum, un petit peu à quelques kilomètres du Caire, vu de nuit à la lueur des torches, qu'il va reproduire tel quel dans la description de l'Égypte. Vous avez les planches ici, l'aquarelle est quand même peut-être un petit peu plus joli, je crois, aussi. Il réalise un certain nombre de missions de géographie et réussit in extremis à se faire adjoindre fin août 1999 dans l'une des deux commissions qui partent explorer méthodiquement la Haute-Égypte. Commission dirigée par Fourier, toujours lui, qu'il connaît bien, et Fourier part avec une douzaine de savants. Une autre commission part également dans le sud. Je précise, ce n'est pas la commission de Denon qui, lui, y est passé l'année précédente, et Denon, à cette époque, est déjà reparti en France, avec Bonaparte. Donc lui, il voyage sur le Haut-Nil, sur les traces de Denon, quelque part. Je vous ai mis ici sur la carte donc son périple, en Égypte. C'est ici, voilà, donc il a débarqué à Alexandrie, le Caire, et puis il va remonter toute la Haute-Égypte pour aller même jusqu'à Assouan, un petit peu plus au sud encore que la carte qui est ici. Voilà, c'est là où il se prend sans doute de passion pour le pays sans doute, mais surtout pour les sites archéologiques et pour l'archéologie égyptienne. Il découvre, lui aussi, il est subjugué par Dendera, comme Denon de toute façon. Aussi, c'est une révélation, les Européens ne connaissaient pas Dendera et l'architecture égyptienne. Voilà, il se dit que c'est sans doute l'affaire de sa vie. Il accumule donc énormément de notes, de renseignements, qu'il va utiliser plus tard dans les publications de la description. En 1800, il réalise une communication à l'Institut d'Égypte, c'est sa première, dissertation géographique sur le lac Moéris comparé au lac Fayoum. Vous retrouverez ça dans les communications de l'Institut d'Égypte. En mars 1801, il revient au Caire, c'est la défaite des Français aussi, tous les savants et militaires restent entre Alexandrie et le Caire. On n'arrive pas bien à travailler, pour tout dire. Il attend surtout, une fois que la paix est signée avec les Anglais, de repartir pour la France. Il est sans doute l'un des derniers savants à quitter l'Égypte. Il arrive à Marseille, on sait, en janvier 1802. Et il reçoit sa feuille de route. Il est nommé capitaine ingénieur de deuxième classe aussi. Mais pour lui, l'Égypte ne sera pas une parenthèse, bien évidemment. C'est la passion de sa vie. Et c'est le point suivant sur la description de l'Égypte. À Paris, on commence à réfléchir à publier tous les travaux de ces savants, les résultats de ces travaux, et on crée une commission pour travailler sur le futur grand ouvrage sur l'Égypte dès le mois de février 1802. Il n'en fait pas partie, en tant que capitaine, il est même affecté au dépôt de la guerre pour préparer des cartes. Et on l'envoie en avril 1802 en Bavière. Côté de l'Allemagne, donc là où il ne voulait pas du tout aller. Mais Bonaparte, vous savez, prépare la conquête de l'Europe. Il a besoin de connaître la géographie de cette Europe, de disposer de cartes. Et donc on l'envoie cartographier la région du Haut-Palatinat. Ça ne l'intéresse pas du tout, bien sûr. Il écrit plusieurs fois au ministre de la guerre pour dire qu'il aimerait bien faire autre chose. En janvier 1803, il termine sa lettre en disant « Daignez considérer que mon temps s'écoule ici sans avantage pour le service, tandis qu'il est réclamé pour un ouvrage national. » Cet ouvrage national, c'est la description de l'Égypte. Finalement, grâce à toujours Monge et Berthollet, qui ont toujours été là pour l'aider, en février 1803, il est rappelé à Paris auprès de la commission d'Égypte, exactement ce qu'il souhaitait. C'est la fin de sa carrière d'ingénieur géographe, c'est la fin de sa carrière de militaire, il démissionne de l'armée, il s'occupe enfin de l'Égypte. Comme chez lui aussi, à chaque fois qu'il occupe un emploi nouveau, ça coïncide avec des changements très importants dans sa vie personnelle. Et donc ici, on peut en parler. C'est d'abord, la mort de son père, ici, donc, qui meurt sans héritage, ruiné, il n'y a pas d'argent, il vivait à la charge de son fils. Il s'installe donc, ce Jomard, à Paris, rue de Bourgogne. Il prend sa mère chez lui et va assurer son existence. Il va travailler au Louvre auprès de la commission d'Égypte, d'abord sans fonction particulière. Il va avoir quand même une chance assez extraordinaire. Cette commission d'Égypte, en fait, alors il y a plusieurs savants qui la composent, mais ceux qui la décident véritablement, c'est un président qui a un rôle plutôt honorifique, donc c'est Berthollet, par exemple, pendant les 20 premières années, un secrétaire qui occupe le secrétariat, et puis surtout le commissaire du gouvernement, c'est lui qui fait le lien entre le ministre de l'Intérieur et la commission. Alors si vous regardez bien, en 1802, il est en Bavière, donc il occupe aucune de ses fonctions, mais il profite du décès de Comté, en tant que commissaire en 1805. Il s'est très vite imposé comme un homme à tout faire dans cette commission. Donc en 1805, il est nommé secrétaire et Lancré, qui était secrétaire, est nommé commissaire. Et puis, seconde chance, Lancré décède juste après et c'est Jomard qui va être secrétaire de cette commission, commissaire du gouvernement, de la commission d'Égypte jusqu'en 1829. À droite, c'est tout simplement une lettre qu'il signe en tant que commissaire près le gouvernement. Donc ça, c'est plutôt bien, ça permet de lui assurer une existence et d'être payé, et même plutôt bien payé pour faire ce travail. Ça lui permet aussi d'être au centre d'un véritable réseau de savants qui sont, avec les années, de plus en plus puissants, ceux qu'on va appeler les Égyptiens. Les savants qui sont allés en Égypte, qui ont accompagné Bonaparte, qui sont revenus vivants, la plupart, mais certains sont morts quand même sur place, et qui commencent à occuper des places un petit peu partout, et qui se soutiennent les uns les autres. Et Jomard, c'est celui qui va organiser quelque part ce réseau des Égyptiens. Il va même organiser ce qu'on appelle le banquet des Égyptiens. Une fois par an, les anciens savants d'Égypte se retrouvent. C'est Jomard qui organise ce banquet. Il en donne l'origine. Il dit « C'était quelques années après le retour de la grande expédition. Plusieurs d'entre nous se réunirent en un modeste festin pour célébrer le souvenir de cet événement mémorable. C'était Geoffroy Saint-Hilaire, Costaz, Girard, Fourier, encore lui, Chabrol et d'autres encore. » On proposa de rendre annuelle cette réunion improvisée. Alors, on aurait bien voulu la faire le jour anniversaire de la bataille des pyramides, mais ça tombe en plein été, il n'y a personne à Paris à ce moment-là, donc on se rabat sur la bataille d'Héliopolis au mois de mars. Et donc, chaque dernier lundi du mois de mars, les Égyptiens vont se réunir pour un banquet et pour aussi fortifier le réseau qu'ils incarnent quelque part. Ce banquet aura lieu jusqu'à la mort de Jomard en 1862, et il en est l'organisateur ici. Alors les travaux de la commission vont occuper Jomard pendant plus de deux décennies et demie, et au passage coûter très très cher, ce que ne manqueront pas de rappeler tous les ministres successifs à leur commissaire du gouvernement. Il y a plein de questions à régler. Alors, il faut régler la question des papiers, des fournisseurs, des formats, arrêter le prix. Ça coûte très très cher, 5 550 francs pour les éditions les plus chères. Il faut vérifier, arrêter l'orthographe de tous les mots étrangers pour qu'il soit cette orthographe soit la même dans toutes les pages de la description. Le plus difficile, c'est de travailler avec les auteurs ou les coopérateurs. Il y a 43 auteurs en tout et ils ne s'entendent pas du tout entre eux. Donc c'est le travail de Jomard d'essayer de réunir les textes, de les faire s'entendre entre eux. Les rapports sont très difficiles. Par exemple, entre les naturalistes, avec Geoffroy Saint-Hilaire et puis Savigny. Savigny, c'est un des savants qui a été recruté pour aider Geoffroy Saint-Hilaire. Il était convenu dans le partage que Geoffroy Saint-Hilaire ferait les vertébrés en Égypte et Savigny les invertébrés. Il se trouve que Geoffroy Saint-Hilaire ne fait rien, qu'il n'a rien rapporté sur les oiseaux notamment, et un jour, Savigny, lui, propose des planches sur les oiseaux. C'est la crise entre les deux, la dispute qui explose entre Savigny et puis Geoffroy Saint-Hilaire en janvier 1806 dans la commission, et c'est Jomard qui est au centre, qui essaye de régler la question. Il a fallu, on nous dit, pas moins de 6 commissions et 3 mois de discussion pour que Geoffroy Saint-Hilaire cède. Il garde les vertébrés. Mais simplement, Saint-Hilaire obtient les invertébrés plus les oiseaux, puisqu'il avait travaillé sur les oiseaux et que l'autre n'avait pas travaillé. Donc 3 mois de travail pour en arriver là. Ça a demandé à Jomard énormément de diplomatie. C'est juste un exemple, régler les mésententes plutôt entre les auteurs. Il faut aussi compter avec le temps de validation du texte, de la préface historique. On sait que Napoléon a gardé le texte pour le corriger et le valider très très longtemps avec lui. Et c'est seulement en 1810 que le premier tome peut paraître, la description de l'Égypte. Vous avez ici le frontispice avec, vous voyez ici à droite, en fait c'est marqué 1809. Ça a bien été publié en 1810, mais Napoléon voulait que ça porte le millésime des 10 années d'anniversaire de son coup d'État. Donc pour plaire à l'empereur, on a mis 1809. Ça, c'est simplement la première livraison. On prévoyait en 1810 deux autres livraisons et la fin de la publication en 1812. Et qu'en 1810, on se dit que tout va être terminé en 1812, tout sera terminé en 1829. Donc on en était un peu loin. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est la chute de Napoléon en 1814? C'est quand même un ouvrage à la gloire de l'usurpateur à partir de 1814-1815. Pas du tout, c'est sans doute surtout le fait que ça coûte cher. C'est déjà une époque où on souhaite faire des économies et on regarde les économies qu'on pourrait faire. Louis XVIII lui accorde tout de suite son patronage à la description. Il accepte même que la carte de l'Égypte, je vous rappelle que Jomard y a travaillé, que Napoléon avait réservé, il avait interdit de publier la carte de l'Égypte. Pour lui, c'était un document stratégique, ici, militairement parlant. Donc Louis XVIII accepte qu'on la publie. Jomard est fait chevalier de la Légion d'honneur dès 1814 par le pouvoir royaliste. C'est assez étonnant. Enfin, étonnant, je veux dire, on ne perd pas de temps en septembre 1814. Alors, pour tout vous avouer, Jomard a des sympathies royalistes, bien évidemment. Il n'est pas un royaliste jusqu'au boutiste, mais une monarchie constitutionnelle lui convient très très bien aussi. Et puisque c'est la fin de la guerre, Louis XVIII lui confie même une mission à l'effet d'aller étudier les antiquités égyptiennes du British Museum, vous savez, les antiquités de l'expédition d'Égypte qui se retrouvent à Londres aussi. Voilà. Et donc il part à Londres, c'est à Londres qu'il apprend le retour de Bonaparte des 100 jours aussi. Bonaparte, lui, n'aura pas le temps de s'occuper de la description de l'Égypte seulement, c'est évident. Lui, Bonaparte, il fait autre chose, et ça nous intéresse aussi. Il nomme Champollion Figeac, chevalier de la Légion d'honneur, Champollion Figeac, le frère de Champollion. Et voyez déjà un petit peu ce qui oppose. Jomard, lui, est nommé par Louis XVIII, Champollion Figeac est nommé par Napoléon, chevalier de la Légion d'honneur. Quant au plus jeune Jean-François Champollion, je vous rappelle qu'il publie dans les Annales de l'Isère cette phrase « Napoléon est notre seul prince légitime en 1815 », enfin au printemps 1815, c'est bien. Simplement plus tard, au moment de la seconde restauration, évidemment, ça va lui coûter cher, ici. Donc Jomard, lui, est du bon côté, il revient à Paris, et pendant les 100 jours, il s'abstient de toute prise de position politique. Son seul fait d'armes, c'est de cacher chez lui, rue de Bourgogne, le préfet de la Seine. Alors ça, c'est la description de l'Égypte, voilà. Le préfet de la Seine, c'est le comte Chabrol de Volvic, un Égyptien, bien sûr, nommé préfet de la Seine par Napoléon, mais qui, à la fin de l'époque napoléonienne, déjà rejoint le camp royaliste. Et évidemment, pendant les 100 jours, il est recherché par les bonapartistes, par Napoléon. C'est Jomard qui va le cacher pendant le temps des 100 jours. C'est un très beau calcul parce que le comte retrouve sa préfecture trois semaines après Waterloo, le 8 juillet 1815, c'est quand même très tôt. Jomard est nommé une semaine plus tard chef du bureau de l'instruction publique, commerce et arts dans le département de la Seine, justement. La Seine, c'est Paris à l'époque, voyez. Donc ça lui a été utile que de cacher cet ancien et futur préfet de la Seine. Chabrol de Volvic, en tant que bon égyptien, va aider Jomard jusqu'au bout, sans difficulté. Voilà. En même temps, donc, Jomard s'intègre dans le cercle des notables parisiens, bien sûr. En 1815, il est élu, et il va être élu dans de très nombreuses sociétés, vous avez remarqué. 1815, c'est la société d'encouragement pour l'industrie nationale aussi. Et quand Jomard entre dans une société, au bout d'un ou deux ans, on l'en retrouve comme secrétaire, puis vice-président, président. Il ne fait pas que de la figuration. À chaque fois, il s'investit dans cette société. Il en est l'un des animateurs. En 1816, eh bien, vous voyez, là encore, donc le changement, puisqu'il y a un nouveau poste, chef de bureau de l'instruction, commerce et arts de la préfecture de la Seine, eh bien, changement à nouveau dans sa vie personnelle. C'est le décès de sa mère, ce coup-ci, et il se marie trois mois plus tard avec une veuve de 32 ans qui s'appelle Jeanne Bonin, veuve d'un certain Benoît Humblot. là aussi famille tout à fait recommandable, puisque ce monsieur Benoît Humblot est un propriétaire résident à Saint-Embreuil, donc près de Châlons. Donc voilà, c'est tout ceci qui se fait. C'est comment ? Eh bien, peut-être aussi. Je me demandais si quelqu'un saurait ce que c'est. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Alors, comment est-ce que Jomard l'a connu ? Eh bien, tout simplement, Jomard connaît un des membres de la famille, le beau-frère de Jeanne Bonnin, qui est tout simplement lui-même le gendre de Comté, Nicolas Comté. Vous voyez que c'est un tout petit monde. On se marie vraiment dans ce même milieu intellectuel et de bonne sociabilité, de bonne notabilité. Ici. Jeanne Bonnin, sa première femme, en fait, a un fils. Déjà, elle est beaucoup, beaucoup plus riche que lui, et tant mieux, quelque part, pour lui. Elle possède beaucoup de terres. Le domaine des Barres, du côté de Châlons, ça peut être à quelqu'un quelque chose, 30 hectares. C'est donc un très beau mariage, mais même s'il n'a pas d'argent, c'est un beau mariage quand même pour madame, parce que lui, il apporte une position sociale à Paris qui est très forte désormais aussi. Quand il se marie, il n'y a pas moins de 10 Égyptiens présents. Quand je dis 10 Égyptiens, c'est 10 anciens savants. Ici, évidemment Berthollet, évidemment Fourier aussi, je ne parle même pas de Chabrol de Volvic hein, qui est tout le temps là, et du coup Jomard déménage, il s'installe boulevard Saint-Germain, donc là encore c'est une façon de montrer sa position. Nouvelle marque de son ascension sociale, il est élu en 1818 membre de l'Institut à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il est le premier Égyptien à rentrer dans cette académie. Les autres Égyptiens sont membres des académies des sciences ou de mathématiques. C'est plutôt dans le domaine de l'archéologie. Vous le voyez ici en tant que portrait d'académicien. Hein, enfin, portrait d'académicien, il n'est pas en tenue, mais tous les académiciens ont eu leur portrait avec Institut Royal de France et puis le nom du personnage ici. Voilà. Donc il va passer désormais son temps. D'abord, il est commissaire pour l'expédition d'Égypte. Il est chef de bureau d'instruction commerce et art de la préfecture de la Seine. Et puis tous les soirs, quasiment, il fréquente les sociétés dont il est membre, dont il est le secrétaire et président, etc. Il garde la main sur la description de l'Égypte et tous les ennuis que cela lui procure. Hein, en 1817, par exemple, ce sont les ennuis avec son agent comptable. Il avait obtenu d'avoir un agent comptable. Il se rend compte qu'à partir de 1814, les comptes ne sont peut-être pas aussi clairs que cela. Et qu'en 1816, il se rend vraiment compte quand il ne retrouve pas son agent comptable et surtout, il retrouve un trou de 95 478 francs. Le comptable est en partie avec. Donc il faut tout refaire, c'est encore lui qui va faire. Évidemment, il faut surtout s'expliquer auprès du ministère pour qui ça coûte déjà très très cher et 100 000 francs de plus. Voilà. Il arrive quand même à faire éditer une troisième livraison en 1817. Et c'est intéressant, mais on en reparlera sur le bilan juste après. C'est lui souvent qui écrit. C'est-à-dire, certes, il y a 43 auteurs, mais le premier auteur de la description de l'Égypte, c'est Jomard. Également. Il n'est donc pas seulement l'architecte. Par contre, on critique, quand je dis « on », la famille Champollion, notamment, bien sûr, mais elle n'est pas la seule, hein, on critique la lenteur de la publication, hein, puisque tout ce qui devait être terminé en 1812, toujours dans les années 1820, n'est toujours pas terminé et édité. Il doit s'occuper aussi de la publication de la deuxième édition, Pankouk, de la description de l'Égypte, avec ce challenge, quelque part, faire que la deuxième édition ne se termine pas avant la première édition, parce qu'au rythme où ça va, la deuxième édition publie évidemment beaucoup plus rapidement que la première. Bon, il arrive à trouver du temps pour faire d'autres choses. En 1819, par exemple, il rencontre Caillot, qui est allé dans l'oasis de Thèbes, hein, en Égypte, et c'est lui qui va... Alors, il va mettre 2 ans, hein, la publication est en 1821, comme vous le voyez ici. Voyage dans l'oasis de Thèbes, ici, mais c'est publié avec l'intervention de M. Jomard, ici, vous voyez. Vous le voyez, par M. Jomard, membre de l'Institut Royal de France, etc. C'est pas Caillot qui a écrit l'ouvrage, c'est Jomard qui s'en est occupé. Il a pris beaucoup de temps pour soigner la présentation et l'édition du texte, mais du coup, il est critiqué à nouveau pour la lenteur de cette publication. À tel point d'ailleurs que Caillot ne lui confie pas la publication du voyage à Méroé, en 1823. C'est Caillot qui s'en charge directement. En fait, Jomard est accablé de travail et il peine à tout mener de front. aussi. Il doit publier, par exemple, la carte de l'Égypte. Alors, elle est magnifique, cette carte de l'Égypte. Vous voyez à droite la carte du géographe du roi Louis XVI, je crois que c'est 1787, quelque chose comme ça. Vous voyez à gauche la carte des ingénieurs topographes. Alors, c'est deux planches de la description de l'Égypte que j'ai raccrochées ici numériquement. C'est ce qui explique la ligne blanche aussi. Mais vous voyez qu'il n'y a pas photo quand même entre les deux, les qualités des deux cartes. Il y en a une qui est quand même beaucoup plus précise que l'autre. Et puis, vous avez des dizaines de cartes plus précises. Ici, c'est la région d'Alexandrie, à nouveau. Alors, ce n'est pas Jomard qui a tout fait, on est bien d'accord. Il y avait d'autres géographes, ingénieurs géographes. Mais on est quand même en... Alors, les notes ont été prises en 1799-1800. On publie ici en 1820. C'est assez exceptionnel hein, pour un territoire qui est à l'autre bout du monde, quelque part, pour les Français de l'époque. Aussi. Mais tout ceci, ça coûte quand même bien cher, surtout pour le ministre. Hein. En 1828, Jomard dit au ministère que ça va coûter 4 millions de francs, sans compter tous les autres frais hein, de voyage, des recherches ici. Ce qui est impressionnant au regard des 150 exemplaires simplement vendus aussi. En fait, on estime aujourd'hui que c'est 5 millions de francs. La description de l'Égypte, le coût pour le ministère, les différents ministères, ce qui est gigantesque, un gouffre financier, même si c'est une beauté, évidemment, d'un point de vue de la librairie. C'est simplement à la fin de l'année 1829 que les dernières livraisons de textes arrivent. Je vous ai remis ici l'ordre chronologique entre la première livraison août 1810, la troisième livraison, vous voyez, qui commence en 1823, puis on n'ose pas dire quatrième livraison, on va mettre, il y a une deuxième section, une troisième section, une troisième section, mais uniquement des planches. On voit bien que ça a traîné. À la fin, c'est pour Jomard un boulet. C'est un fardeau immense, cette description de l'Égypte. Il n'y arrive pas, quelque part, et c'est ce qui explique que ça traîne aussi. Mais en tout, c'est quand même donc 894 planches officiellement, sans compter les toutes petites gravures hein, dans les pages de texte, 7000 pages de texte, 53 feuilles d'atlas, 43 auteurs, 157 contributions. Sur les colonnes à droite, ici, je vous ai mis la part de Jomard. Voilà, en nombre de planches, il en a réalisé 13% des planches. 119 planches viennent de lui sur les 894. Il a écrit 1400 pages. Certaines de ses contributions sont des livres entiers, en 300 pages, ici. C'est gigantesque. Il a contribué à 8 des planches, des 53 planches, et il a réalisé 30 des 157 j'ose pas dire article, parce que quand vous avez des articles de 300 pages, ce n'est pas vraiment des articles, mais contributions, voilà, soit un cinquième des contributions. C'est beaucoup, ici. Il est allé encore plus loin, c'est lui qui, parce que c'est très, très difficile à arranger, cette description de l'Égypte, c'est lui qui va dessiner un plan spécifique pour là c'est imprimé, hein, mais c'est lui qui en a fait le dessin. Il a imaginé un meuble pour ranger la description de l'Égypte. Alors très peu se sont payés ce meuble, hein, c'était très très cher. Ici vous avez l'exemplaire de l'Assemblée nationale qui a fait éditer ce meuble. C'est pas Jomard qui l'a travaillé, mais c'est lui qui l'a dessiné aussi. Alors le problème, c'est que la livraison, la description de l'Égypte, tout le monde se félicite hein, de la qualité de ses travaux. Il y a une question quand même qui se pose, c'est la question du déchiffrement des hiéroglyphes et qui va rendre la description complètement dépassée sur ce sujet. Alors, le déchiffrement des hiéroglyphes, c'est la pierre de Rosette, bien évidemment. C'est que tous les savants ont essayé de percer le mystère. Ben, Jomard aussi. Et la grande blessure de la vie de Jomard s'appelle Champollion, bien évidemment, à partir du moment où son chemin va croiser celui des frères Champollion, qui sont pour lui des interlocuteurs difficiles. Au début, ça commence bien, hein, il est en contact avec Jacques-Joseph Champollion, Champollion l'aîné, si l'on peut dire, dès 1804 aussi. Alors je vous rappelle que Jacques-Joseph Champollion, lui, est secrétaire du préfet de l'Isère. Le préfet de l'Isère, c'est un certain Fourier, à nouveau, mathématicien, on n'arrête pas de le croiser, vous voyez, vous le croiserez encore plus demain. aussi. Et Champollion Figeac travaille pour l'écriture de la préface historique de la description qui est signée par Fourier, mais qui en fait est écrite par Champollion Figeac. Donc il entre en contact dès 1806 avec Jomard, et Jomard, qui est très bienveillant, qui répond à tout le monde, c'est peut-être pour ça qu'il perd du temps aussi, hein, fait une première lettre très sympathique, hein, lui écrit en lui disant: j'ai pris, monsieur, bien de l'intérêt à l'article de votre lettre qui concerne monsieur votre jeune frère. C'est Figeac qui a parlé déjà de son petit frère. Guidé par un aussi bon maître que vous, il promet à la République des Lettres, un savant distingué, la prédilection que vous lui avez inspirée pour les études orientales est de nature à flatter les voyageurs d'Égypte. Ne doutez pas, monsieur, du contentement que j'éprouverai à l'aider et que partageront nos collègues orientalistes. Bon, ça va peut-être pas se terminer de la même façon, mais au début, ça commence bien aussi. Champollion, le jeune Jean-François, s'installe en 1807 à Paris, très modestement. Jomard l'accueille avec bienveillance, il lui ouvre les portes des principaux savants. Mais Champollion manque sans doute un peu de diplomatie, il est jeune aussi, hein, et dès 1808, il n'hésite pas à critiquer publiquement l'appellation tombeau d'Ozymandas. Ah zut, je ne vous ai pas mis, voilà, Champollion Figeac, et puis Champollion le jeune, Jean-François Champollion. Voilà. Le tombeau d'Ozymandias, vous avez une des planches de l'inscription de la description de l'Égypte ici. Hein. Diodore de Sicile avait évoqué ce terme, tombeau d'Ozymandias, que la description de l'Égypte a reprise. En fait, Ozymandias est un pharaon qui n'a jamais existé. Donc Champollion critique avec raison, hein, l'utilisation de ce terme. Simplement, il le fait sans doute en manquant de diplomatie vis-à-vis surtout des anciens de l'expédition d'Égypte. Hein, et les Jomards, les deux Sassis, les Langlès n'apprécient pas trop les remarques de quelqu'un qui a 17 ans et qui n'est jamais allé en Égypte. Aussi, peut-être que Champollion est perçu déjà comme peut-être un rival potentiel aussi pour Jomard. Champollion va repartir 2 ans plus tard à Grenoble avec le sentiment d'avoir été mal reçu à Paris par les Égyptiens, par Jomard, par ses savants. Il n'a... Et voilà. C'est pas faux. Hein. Sassi écrit à Champollion Figeac en mars 1810. « Je suis sensible au souvenir de votre frère et je l'engage à ne point abandonner la littérature orientale. Okay » Mais je ne pense pas qu'il doit s'attacher au déchiffrement de l'inscription de Rosette. Le succès dans ces sortes de recherches est plutôt l'effet d'une heureuse combinaison de circonstances que celui d'un travail opiniâtre. Bref, tout le contraire de ce que va faire Champollion, qui l'amènera au succès ici. Vous voyez que les Champollion avaient quand même des raisons, non pas de se méfier, mais ça ne s'était pas bien passé au début. Je vous rappelle aussi que les Champollion sont plutôt bonapartistes, Jomard est plutôt royaliste, modéré, mais monarchiste tout de même. Champollion Figeac, lui, arrive à Paris en 1817 et devient l'intime de Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dont Jomard est membre de cette même académie. Les relations reprennent entre les deux, ils s'invitent, c'est très bien. Champollion, le frère, lui, arrive de Grenoble après 1820, avec le surnom de Robespierre Grenoblois, on rappelle aussi. Il a perdu tous ses postes et il dit bah, autant arriver à Paris, quelque part. Voilà. Il va essayer de se mettre au travail sur le déchiffrement de la pierre de Rosette, bien sûr. Champollion aussi s'est penché sur l'inscription de Rosette. Il va y passer beaucoup, beaucoup de temps. Il fait plusieurs communications dessus, sur cette inscription. Et c'est l'année 1822 où la cassure va arriver. Ça commence avec le fameux Zodiac de Dindera qui arrive à Paris aussi. Et... alors c'est une magnifique œuvre archéologique, hein, c'est ce qu'on prend de Dindera, mais surtout Jomard est attaqué parce qu'on lui fait le reproche que les questions égyptiennes, quelque part, seraient dans les mains de seulement des Égyptiens. Il écrit « Le reproche qui nous est adressé et qui est dépourvu de tout fondement, savoir que les voyageurs français voudraient être les seuls à travailler sur les antiquités égyptiennes et qu'ils les regarderaient comme une propriété exclusive. » C'est les Champollion qui sont derrière ces attaques, hein, qui expliquent que tout le monde peut s'intéresser à l'Égypte, pas besoin d'être égyptien aussi. Jomard est présent quand Champollion lit sa fameuse lettre à Monsieur Dacier ici. Voilà. La publication de la lettre ne lui plaît pas du tout. Champollion écrit dans cette lettre à Monsieur Dacier, dans la version texte, on sait que Monsieur Jomard est le commissaire du gouvernement chargé de l'exécution de cet ouvrage, la description de l'Égypte. Oui, ben voilà, Jomard y est présenté comme un éditeur de la description de l'Égypte, pas comme un auteur, c'est lui qui écrit le plus, c'est lui, il n'est pas présenté comme un savant. Ça, c'est pour Jomard une sacrée blessure. Il a travaillé sur les hiéroglyphes, hein. Il va faire éditer cette planche qu'il ne paraît qu'en 1826. Il a passé du temps à travailler sur cette planche, à classer tous ces signes hiéroglyphiques. Donc vous en avez ici un exemplaire, enfin un zoom un peu plus précis. Ça sert strictement à rien, ça veut rien dire. Il n'a rien compris, Jomard, aux hiéroglyphes. Et en fait, il avait écrit beaucoup de choses qu'il n'osera jamais publier dans la description de l'Égypte, parce que c'est après 1822 et après la lettre à Monsieur Dacier. Le public aurait compris qu'il ne sait pas lire les hiéroglyphes, bien évidemment. Alors, il ne prétend pas de le faire, mais voilà. Jomard n'a pas contesté la supériorité de Champollion, hein, dans le déchiffrement, mais il en prend ombrage, et surtout pour la jeunesse aussi de Champollion. La difficulté, c'est que depuis quelques années aussi, Jomard essaye de constituer en France, à Paris, un musée égyptien, des antiquités égyptiennes. Il en fait venir. Or, ce musée des antiquités égyptiennes, ben, je vous ai mis, alors vous avez une illustration à gauche, mais ce musée, le conservateur qui va être nommé en 1826, ben, c'est Champollion, Jean-François Champollion. Alors, on est entre nous, hein, on sait bien qu'il le mérite beaucoup plus que Jomard. Lui, au moins, il sait lire les hiéroglyphes. Si vous voulez créer un musée d'Égyptiens, d'archéologie égyptienne, il vaut mieux un savant qui sait lire les hiéroglyphes qu'un savant qui ne les a pas compris. Mais pour Jomard, c'est très, très difficile, parce que c'était ce qu'il espérait. Il sentait bien en 1826 que la description de l'Égypte s'était terminée, qu'il fallait trouver un autre emploi. Il n'est plus chef du bureau de la de la préfecture de la Seine, hein, aussi, et il a l'impression tout simplement que Champollion lui a volé le poste qu'il voulait, le musée du Louvre, puisque ici c'est le musée Charles X, c'est le musée du Louvre aujourd'hui. Il écrit à Champollion Figeac une semaine après la création du musée égyptien, « Monsieur et ancien collègue ». Ancien collègue, déjà ça commençait pas bien. « J'ai dit à tout le monde que vous ignoriez sans doute les soins de toute espèce que j'ai pris depuis 10 ans pour former une collection égyptienne dans la vue de l'honneur et de l'intérêt de la science. En effet, les expressions affectueuses de votre dernière lettre ne me permettaient pas de croire un seul moment que vous auriez donné la main à un projet dirigé contre moi. Cependant, il m'est venu un scrupule depuis et la franchise me fait un devoir de vous le communiquer. » À l'époque où le sarcophage trouvé à Memphis par M. Drovetti est arrivé à Paris par mes soins, vous m'avez demandé de voir ce monument qui était confié à ma garde. Vous n'avez donc pas ignoré alors que je m'occupais de procurer à la France des monuments égyptiens destinés pour le musée royal. Ainsi, c'est bien sciemment que l'on m'enlève l'honneur de former une collection de cette espèce. Le prétexte d'un cours de langue hiéroglyphique ajouté depuis à la conservation des monuments, à la formation de la galerie égyptienne, ne fait que colorer une sorte de spoliation. C'est ainsi qu'on juge des personnes impartiales, désintéressées et honorables. Tout le monde sent pourquoi un membre de la commission des monuments d'Égypte, un voyageur qui a rendu à leurs études quelques services, tient à l'honneur d'être chargé de ce soin, et personne ne lui suppose d'autre vue que l'intérêt général et la gloire nationale. C'est donc un tort réel, un procédé blâmable de votre part et de celle de vos amis. Je ne puis y voir, et c'est bien à mon regret, qu'un acte d'hostilité, à moins qu'une explication qui me prouve mon erreur. Agréez mes civilités et présentez-les aussi à monsieur votre frère, s'il vous plaît, votre dévoué serviteur, Jomard. Et il rajoute, vengeur à nouveau, PS, n'aurait-il pas été possible d'obtenir une chair sans s'emparer du bien d'un autre ? S'emparer du bien d'un autre, c'est vraiment le sentiment, c'est le problème de Jomard, c'est ce qu'il voulait, il ne l'a pas. Alors, je passe sur les critiques de Jomard par Champollion, hein, sur le fait que la description de l'Égypte, les dessins sont mal faits, les inscriptions hiéroglyphiques sont fausses, etc. Champollion va se présenter, Champollion Figeac aussi, hein, d'ailleurs, à l'Institut, enfin l'Académie des inscriptions et belles lettres. On peut penser que Jomard n'a pas forcément voté pour lui à chaque fois, mais Champollion finira par être élu et ils siégeront dans la même assemblée. Je vous ai mis tout de même une médaille de Jomard ici. C'est aujourd'hui la seule chose qui nous montre que Jomard est au Louvre, puisque comme c'est une médaille de David d'Angers, elle a été acquise depuis par les collections du Louvre. Donc il y a au moins quelque chose de Jomard au Louvre. Donc l'Égypte pour Jomard s'est un peu oublié. Il se tourne alors vers l'enseignement mutuel. quelque chose qui est en marge de la description, qui est très à la mode à l'époque. En 1815, les Français ont créé une société pour l'instruction primaire. Jomard en est évidemment un des secrétaires ici. Et le nouveau ministre lui demande de faire partie d'un comité d'instruction publique chargé d'établir une école modèle d'après la nouvelle école. Alors ce modèle, c'est ce modèle de l'enseignement, l'école d'enseignement mutuel. Il a vu comment ça fonctionnait à Londres ici. C'est très simple. Dans l'école d'enseignement mutuel, vous avez un professeur pour plusieurs centaines d'élèves. Le professeur s'occupe surtout de gérer l'autorité, la discipline, si l'on peut dire. Et en fait, vous avez un élève un peu meilleur qui va être le répétiteur d'un groupe d'élèves. Ici, vous voyez un élève là qui montre du doigt des tableaux aux élèves. Et puis ici, vous voyez un élève qui corrige peut-être ce que les élèves sont en train d'écrire. Et en fait, c'est un élève qui a un peu mieux appris les leçons que les autres, qui devient une sorte de répétiteur. Et puis quand il a formé un de ses élèves lui-même, il passe dans le groupe supérieur et il écoute les leçons d'un autre élève qui l'a précédé ici. Voilà. Donc on va créer donc cette société pour l'instruction primaire. Il y a du beau monde quand même dans cette société dont Jomard est membre. On y trouve Ampère, Cuvier, Chabrol de Volvic, on est à Paris, les préfets de la Seine, Chateaubriand, le duc d'Orléans, Guizot, Jomard, Champollion-Figeac aussi, qui apparaît également, bien évidemment, ils sont partout. Voilà. Il a été le secrétaire de la société de 1816 à 1831, donc pendant plus de 30 ans, et puis président, et ensuite président honoraire jusqu'à sa mort. Il en est très assidu, il va très très loin, puisqu'il va même publier des méthodes à destination des professeurs ou de ses élèves, abrégées de la méthode élémentaire, ici, voilà. Donc à gauche c'est Monsieur Jomard, même s'il n'y a pas son nom, à droite arithmétique élémentaire ou tableau d'arithmétique, ici il a mis son nom par Monsieur Jomard, et puis il a publié des tableaux de lecture à nouveau par Monsieur Jomard ici, avec, là on voit alors ces tableaux de lecture, vous voyez des syllabaires classiques qu'on trouve, c'est quand même assez étonnant de trouver un membre de l'institut publier ces genres de tableaux ici, et puis on appelle méthode de Monsieur Jomard, c'est la méthode pour enseigner. C'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup de temps de sa vie. Il a créé à Versailles une école d'enseignement mutuel, c'est sa ville natale. Les Champollion font la même chose à Figeac et à Grenoble, d'ailleurs. C'est assez étonnant le parallélisme entre les deux. En 1819, il y a 600 écoles mutuelles. En 1833, c'est-à-dire 14 ans plus tard, il y en a 1900, trois fois plus. Donc ça a un succès. Ici, ça fonctionne assez bien, sauf que à partir de 1830, ça va quand même décliner un petit peu. Jomard aura moins d'influence aussi. Alors d'abord parce qu'avec la monarchie de Juillet, le brave Chabrol de Volvic est obligé de quitter la préfecture de la Seine aussi. Il est vu comme un trop proche de Charles X, bien sûr. Et puis ensuite parce que, en fait, on se rend compte que la méthode fonctionne bien, c'est vrai, mais juste pour apprendre à lire, pour les rudiments. Dès que vous voulez un petit peu aller plus loin, c'est pas facile de former des élèves également. Ensuite, Guizot ne l'a pas repris. Alors Guizot a lu un projet de loi pour développer l'école primaire, un projet de loi en 1831 qui est publié dans la revue encyclopédique, qui est en fait écrit par Jomard. Ni plus ni moins. Guizot ne va pas reprendre le principe de l'enseignement mutuel. Il y a aussi les milieux catholiques qui sont très opposés, parce que dans l'enseignement mutuel, vous vous passez des bons frères, qui sont les professeurs, et donc ça, c'est pas bien vu. Mais par contre, Guizot va retenir l'idée que, tiens, les écoles, ça pourrait être payé par les communes, plutôt que de les payer par l'État. Ça, c'est une idée qui est évoquée par Jomard dans son projet de loi, par exemple. Bien. En tout cas, à partir des années 1840, l'enseignement mutuel décline. Ça a eu un temps, et puis ensuite, c'est plus trop à la mode. Jomard écrit quand même à la fin de sa vie, il parle de l'enseignement élémentaire sera un jour obligatoire, mais malheureusement, je ne le verrai pas. Il est quand même assez visionnaire, tout de même. Alors du coup, il va se reporter sur l'école égyptienne de Paris. Il est en relation avec le monde entier, notre Jomard, notamment avec Drovetti, le consul de France en Égypte. C'est un projet auquel il a pensé dès 1811 faire venir des Égyptiens à Paris pour les former aussi. En 1811, ça ne fonctionne pas. En 1819, le pacha d'Égypte dit « Ok, on y va ». Et en au milieu des années 1820, vous avez une quarantaine de jeunes qui vont venir, qui sont encadrés par des effendis, des adultes un petit peu plus... des maîtres, des précepteurs, quelque part, égyptiens. Parmi eux, il y en a un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Rifa al-Tataoui, qui est celui qui aura le plus de succès, qui va revenir en Égypte. Ils vont arriver à Marseille. Alors, à Marseille, on les dépouille un peu de leur costume oriental, parce que, voilà, ça, voilà, on les habille à l'occidental. Et puis, on va les emmener dans les meilleures écoles de France. Et là encore, Jomard est présent tout le temps. Il va, alors vous le voyez ici, il y a une gravure, Jomard avec quelques Égyptiens de l'école. Alors, ils n'ont pas 5-10 ans, hein, ils ont plutôt entre 15 et 25 ans. Vous les voyez ici également. Jomard passe beaucoup de temps avec eux, il les invite chez eux. Parfois, quand le ministère n'a plus d'argent, c'est Jomard qui va payer pour loger, par exemple, ou autre. Il s'investit totalement et il est là à chaque fois pour les remises solennelles des prix, parce que ça va durer pendant plus d'une décennie, hein, cette école égyptienne de Paris. Ici. Pardon. Il les emmène au Louvre, parfois, également. L'affaire se termine en 1835, mais Mehmet Ali pense que ça ne sert pas à grand-chose, en gros, ce n'est pas du tout l'avis de Jomard. Au contraire, ça va créer des liens entre la France et l'Égypte, mais ils sont un peu jeunes, ces Égyptiens, et c'est 10, 20, 30 ans après que les liens France-Égypte vont être développés grâce à ces anciens étudiants égyptiens en France. Mehmet Ali, le pacha d'Égypte, donc écrit à Jomard en 1835, il lui dit... Vous êtes un ami zélé de la cause égyptienne et je vous en remercie. Votre zèle n'a été égalé que votre désintéressement et je n'ai pu trouver encore le moyen de vaincre des refus qui prennent source dans une délicatesse trop grande. Le pacha d'Égypte avait proposé de payer Jomard. Jomard avait dit non. Il avait dit non, vous n'avez pas à me payer, je fais juste mon travail, mon devoir. Le pacha d'Égypte lui dit donc « Je désire pourtant vous donner un témoignage de ma haute estime et j'espère que vous ne refuserez pas le simple don d'une tabatière qui aura peut-être quelque prix à vos yeux, sachant que c'est moi qui vous l'offre. Mon fidèle ministre Bogos Bey est chargé de vous la faire tenir. J'ajoute ici, monsieur, que ce n'est point une digne récompense de vos efforts en faveur de l'Égypte que je prétends vous adresser. C'est tout simplement, ce n'est que le simple souvenir d'un prince que vous avez aidé à faire quelques pas pour la civilisation du peuple qu'il gouverne et en même temps une prière de continuer dans l'avenir, ce que vous avez si bien commencé. » Alors, ce n'est pas n'importe quelle tabatière, c'est une tabatière en or, enrichie de diamants. Ce sera une des fiertés de Jomard. Alors, là, je crois que je me suis trompé dans l'ordre des diapositives. Voilà. Dans la photographie de Jomard, un petit peu plus âgé, il se fait photographier ici avec cette tabatière en or que vous voyez peut-être un tout petit peu mieux sur la gravure de droite également. Il l'a tenue jusqu'à la fin de sa vie. Dans l'inventaire après décès de Jomard, elle est estimée à 9000 francs, cette tabatière. Il est payé 6000 francs annuels, son traitement aussi. Donc un an et demi de son salaire, de son traitement annuel de conservateur de la Bibliothèque royale. C'est une reconnaissance très importante. Si Mehmet Ali a donné la tabatière, c'est aussi parce que quelques semaines plus tard, il ferme l'école égyptienne de Paris. Hein, ça lui coûte trop cher, il n'en voit pas totalement l'intérêt aussi. Bon, mais c'est Jomard qui avait voulu créer cette école et c'est lui qui en a été l'animateur. Alors la seconde vie de Jomard, c'est le département des cartes et plans. Voilà. Alors, qui a pu lui trouver cette position? On est en 1828. C'est l'inévitable Chabrol de Volvic, hein, qui est encore préfet de la Seine pour 2 ans, merci les Égyptiens. Donc il est nommé à 50 ans conservateur à la Bibliothèque royale, chargé du dépôt de géographie. C'est le premier conservateur, c'est la première fois qu'il y a un département des cartes et plans à la Bibliothèque royale. Et là encore, ça correspond à un changement dans sa vie personnelle. D'abord parce qu'il déménage à nouveau, il obtient un superbe appartement de fonction dans ce qui est aujourd'hui la Bibliothèque nationale, mais aujourd'hui ce ne sont plus des appartements de fonction, c'est la bibliothèque en elle-même, un très bel appartement sur 3 niveaux, des belles pièces en enfilade, de quoi mettre le linge, l'argenterie, la bibliothèque qui est très conséquente bien sûr. Surtout, sa femme va décéder peu après sa nomination de conservateur. Donc il garde évidemment ses deux jeunes enfants, une Bathilde qui va rester très proche de son père jusqu'à la fin de sa vie, hein, qui va se marier avec un juge. Elle lui donnera un enfant, donc il sera grand-père ici. Et puis Edmond, alors Edmond lui c'est tout le contraire, c'est un voyageur dépensier, il vient voir son père quand il faut payer des dettes et il n'aura pas le temps de se marier, enfin il ne se marie pas et il part au bout du monde aussi. Son fils il l'a un peu oublié quelque part. Il vit dans l'aisance, hein. Donc il a 6000 francs de traitement annuel, il a 4000 francs d'indemnité de frais de bureau, il a 1500 francs de pension du ministère en tant qu'homme de lettres aussi, puis surtout les revenus de sa femme, hein, des fermages du côté du Chalonnais, c'est 25 000 francs par an également, donc avec 35 000 francs par an, il vit très très bien et en plus il gère très bien sa fortune. Alors, où est-ce qu'il travaille? Il travaille à la Bibliothèque nationale, dans cet hôtel Tubeuf à l'époque. Là, c'est juste au moment où, sous le Second Empire, on est en train de restaurer cette Bibliothèque nationale. Il crée ce département et il s'en occupe avec un dévouement, un enthousiasme. Il est le père de ce département des cartes et plans actuels de la Bibliothèque nationale. Quand il recueille le fonds de cartes, il y a à peu près 13 000 pièces. En 1858, soit 4 ans avant sa mort, il y a 150 000 numéros enregistrés. On passe de 13 000 numéros à 150 000, multiplié par 10. Alors, il achète, il échange, il fait des magnifiques achats, hein, c'est la mappemont de Sébastien Cabot, 1544, qui est aujourd'hui à la BN. C'est lui, il n'y a qu'un seul exemplaire connu en France, il l'achète 400 francs, c'est pas très cher, enfin, pour l'époque c'est cher, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il prend le temps de tout enregistrer, de tout ficher dans des catalogues différents, communicables, tout est conservé à plat, c'est un bon gestionnaire, et il a une idée encore plus personnelle, il n'a pas réussi à faire le musée égyptien, il aimerait bien faire un musée des collections géographiques, de collections d'instruments, d'armes, costumes propres, à donner une idée des mœurs, des usages et du degré de civilisation des peuples. En fait, ce ne serait pas un simple musée géographique, mais un musée géo-ethnographique, quelque part, qu'il a proposé de faire à la rue Vivienne. Le problème, c'est qu'il y a une très forte opposition d'un des conservateurs. J'ai oublié de préciser, mais quand Jomard est nommé conservateur des cartes et plans, eh bien, il y a un autre conservateur qui est nommé aussi, il s'appelle Champollion Figeac. Lui, il est nommé conservateur des manuscrits. Et du coup, voilà, vous imaginez l'entente entre deux hommes. Jomard avait proposé au conservatoire de la bibliothèque de créer un musée ethnographique. En 1832, il subit une humiliation puisque le conservatoire, consulté sur ce projet, va répondre négativement, on nous dit dans les procès-verbaux, à l'unanimité moins une voix. Alors l'unanimité, on voit bien, c'est tous les autres conservateurs, la moins une voix. On imagine bien que c'est Jomard, mais ça vous dit un peu son isolement au sein même de cette Bibliothèque nationale. Il n'arrive même pas à avoir un autre conservateur qui penserait comme lui. Donc du coup, il se rabat sur la dernière chose dans sa vie, c'est la Société de géographie aussi. Il la fréquente, hein, bien évidemment. Alors, par définition, il en est l'un des fondateurs, comme la plupart des sociétés dont il est membre. Il a participé à la première réunion constitutive de la société en juillet 1821. Ils sont que cinq, hein, il est l'un des cinq. Et puis, quand la société est créée en décembre 1821, il est là, il est membre de la commission centrale. Il a été, là encore, 13 fois président, 16 fois vice-président. J'ai oublié de dire, mais en 1821, qui est présent aussi? Les Champollion, bien évidemment, les deux frères, eux aussi, mais eux, ils s'en retirent, parce que comme ils se rendent compte qu'il va y avoir du travail, ils préfèrent faire autre chose. Voilà, donc il va donner un certain nombre de conférences dans cette société de géographie. Alors je ne suis pas certain ici qu'on soit dans les années 1820, il est possible que dans la gravure ici on soit dans un des lieux dans les années 1800, sous le Second Empire. Je ne vous garantis pas que... Voilà, mais bon, c'est la société de géographie à Paris quand même, c'est le principal. Il y parle de quoi? D'abord de l'Égypte. Ça va de soi, c'est ce qu'il connaît bien. Et puis, il va y travailler, il va y présenter l'avancement de son travail à la Bibliothèque royale. Et surtout, un de ses projets, reproduire sous forme de fac-similé les cartes les plus anciennes de la bibliothèque pour les diffuser auprès du public. C'est les fameux monuments de la géographie que je vous ai présentés tout à l'heure au tout début. Voilà. La difficulté, c'est que il y a un autre membre de la Société de géographie, le vicomte de Santarém. C'est un diplomate et un savant portugais qui est réfugié en France. qui a exactement la même idée que lui, c'est-à-dire qui va concurrencer sa publication. Et vous savez que le problème de Jomar, c'est qu'il met du temps à publier. Il est très lent. Et résultat, vous allez avoir les monuments de la géographie qui s'opposent à l'atlas composé des mappements de Portulan, des cartes, etc. Par Monsieur de Santarem. Sauf que l'ouvrage à droite est publié en 1847, alors que l'ouvrage de gauche est publié en 1854, soit 7 ans après. Vous voyez le retard. Mais bon, les deux sont membres de la Société de géographie. Et font des communications à chaque fois de Société de géographie en disant c'est moi qui ai la... Jomar dit c'est moi qui ai l'idée de publier toutes ces cartes, donc je prends date aujourd'hui, même si ce sera publié dans 10, 20, peut-être jamais, hein, comme la description de l'Égypte, on n'en sait rien. Alors la chance pour Jomar, c'est que Monsieur de Santarem finit par mourir assez vite, ce qui laisse Jomar sans concurrent. Jomar n'aura pas le temps de terminer, lui aussi, il va finir par mourir un petit peu plus tard. Il s'intéresse à la Société de géographie à une grande question qui est celle sur le Niger. Où se situe Tombouctou au Niger? C'est inconnu, en 1828, on ne le sait pas. Sauf un Français, un certain René Caillé, qui revient de Tombouctou. C'est le premier Européen à pénétrer à Tombouctou. Jomar, et grâce à son réseau d'informateurs dans le monde entier, est le premier à voir la nouvelle. Il l'annonce à la Société de géographie, il fait venir René Caillé à la Société de géographie, et bien évidemment c'est lui qui va éditer le journal d'un voyage à Tombouctou par René Caillé, mais avec un itinéraire par Monsieur Jomar, bien évidemment, comme il fait pour tout le monde à chaque fois ici. Et c'est lui qui va défendre ce cahier, parce que quand même les Anglais cherchaient bien eux aussi la position de Tombouctou et commencent par émettre la rumeur que finalement Caillé ne serait jamais venu à Tombouctou. C'est donc Jomar qui, dans les revues savantes de l'époque, va défendre son compatriote ici pour dire mais bien sûr il y est allé, c'est évident. Il est devenu ami avec Caillé, qui meurt une dizaine d'années plus tard. Et il va faire ce qu'il fait souvent, c'est-à-dire lancer une souscription pour élever un monument commémoratif à Pont-l'Abbé, c'est la ville où Caillé est, en Charente-Maritime, où Caillé est inhumé. Et ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il inaugure le monument en 1841. Il va même aider le fils de Caillé à financer ses études, comme il le fait pour lui. Bon, vous avez compris, il a de l'argent aussi, hein, il n'y a pas de difficulté. Il est passionné par la question des sources du Nil. À la Société de géographie, on en parle beaucoup à ce moment-là. Un de ses biographes écrit « Le bassin du Nil lui paraissait être sous sa suzeraineté scientifique. Hein, » on ne touche pas à tout ce qui est l'Égypte, le Nil est un peu plus loin aussi. Il meurt juste avant l'annonce de l'arrivée à Londres, de la nouvelle que Speke a atteint le lac Victoria. Il aurait apprécié, hein, il fait partie de... dans cette Société de géographie, voilà, tous les 2, 3, 4 mois, on parle de la question des sources du Nil et de savoir qui va réussir à les trouver. Il a un intérêt aussi pour le Japon et il a des correspondants jusqu'au Japon. Il pressent l'occidentalisation du Japon, l'ouverture en tout cas du Japon, et il en parle à la Société de géographie. Bref, vous avez compris qu'entre 1822, le début de la Société de géographie, et la mort de Jomar, en 1862, pendant 40 ans, il est la principale figure de la Société de géographie française. Cela dit, quand on suit un historien de cette Société de géographie, l'historien écrit « Ces 40 années sont 40 années de, je cite, gâchis pour la Société de géographie ». Alors pourquoi? En fait, cet historien explique que la période Jomar, c'est la période des géographes de cabinet. Et c'est vrai que Jomar est un géographe de cabinet. Ok, il est allé en Égypte, mais c'est dans sa jeunesse. Et il ne fait que raconter ce qu'il voit, ce qu'il lit dans les lettres ici. En fait, la plupart des membres de la Société de géographie ne voyagent pas. Elle s'intéresse autant à l'histoire, et c'est Jomar qui intéresse la Société de géographie à l'histoire des cartes, qu'à la géographie qui est en train de se constituer, le monde qu'on découvre avec les voyages qui se multiplient au milieu du 19e siècle. C'est tout le contraire de la Royal Geographical Society de Londres, qui, elle, travaille avec des marins, avec des négociants, avec des hommes d'affaires, et explique que la géographie, ça peut avoir un intérêt économique, hein. On n'est pas loin de la City aussi. La Société de géographie française, c'est pas tout à fait la même optique, et Jomar est resté un géographe de cabinet, d'accord. L'avantage, c'est que toutes les prises de position qu'il a eues ont été judicieuses. Ici, et on peut déjà lui reconnaître ce mérite.
Alors, pour terminer, il faut bien dire qu'effectivement, il est rattrapé par son âge, bien sûr, par les dernières années. À partir des années 50, on l'appelle le vénérable monsieur Jomard, c'est le privilège de l'âge, ici. Il est le doyen d'âge ou le doyen d'élection de toutes les assemblées quasiment qu'il fréquente. Alors évidemment, il souffre de la goutte, hein, comme il se doit à cette époque. Il doit perdre son logement de la bibliothèque impériale en 1858, parce que justement, on chasse les logements de fonction, parce qu'on a besoin de la place, ici. Alors, il a du mal à se déplacer, il bénéficie de sa bibliothèque. Après décès, on a compté 7000 volumes dans sa bibliothèque à Paris, 7000, estimé à 14 000 francs, beaucoup plus que le mobilier, l'argenterie qu'il y avait, qu'il laisse aussi. Il y a des milliers de cartes et d'estampes, et puis il y a surtout les originaux de la description que Jomard a dessiné, qu'il va faire don après à la bibliothèque. Il arrive à faire quelques voyages après la mort de sa femme, il va en Belgique. Alors là, c'est fantastique, il emprunte dès 1836 les chemins de fer, les premiers chemins de fer, il y en a à peine en France. Et première chose qu'il fait, dès qu'il revient à la Société de Géographie, il en vante les mérites et il indique que ça, c'est le moyen de transport de l'avenir. Aussi, il n'a peut-être pas tort, il explique que c'est très prometteur. En 1839, il est en relation avec Jacques Daguerre de Chalon, bien évidemment, et de la photographie. Et alors là, il s'enthousiasme pour la géographie. Il l'invite à la Société d'encouragement pour l'industrie, par la Société de géographie, pour venir exposer sa découverte. Et puis, alors c'est là où j'ai mis, voilà, il se fait photographier. Alors vous avez la photographie à gauche avec la tabatière, et puis la photographie à droite. Alors ici, elle est vraiment prise quand il a plus de 80 ans. C'est la dernière photographie là. Donc les autres voyages, c'est pour aller se faire soigner à Luxeuil, les Bains par exemple, ou au Mont d'Or en Auvergne. Il a des problèmes, on le voit sur la photographie, des problèmes de vision, mais comme beaucoup d'Égyptiens, vous savez qu'ils ont souffert des déserts égyptiens et leurs yeux n'ont pas brûlé, mais en tout cas, ça a été difficile pour eux. Ils continuent à s'occuper du banquet des Égyptiens. En 1860, ils sont encore 33. Ils sont 33 parce qu'il y a des fils, des neveux, des voyageurs qui sont invités, mais il n'y a plus beaucoup d'Égyptiens aussi. En 1862, 1862, oui, c'est le dernier. Il est quasiment le dernier des Égyptiens. C'est pour ça qu'on, dans la biographie, on parle le dernier des Égyptiens. C'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Son biographe dit c'est le dernier des Égyptiens. Pas tout à fait vrai parce que son frère, qui est un savant égyptien, meurt 3 ans après lui. Il n'est pas le dernier égyptien ici. Alors il a le temps quand même de se dépenser pour faire ériger des statues, et c'est lui qui à chaque fois le fait. Berthollet à Annecy, c'est en 1844, Fourier à Auxerre, c'est en 1846, c'est à nouveau Jomard qui s'en occupe, Monge à Beaune, c'est en 1849, Larrey, c'était le chirurgien de l'expédition, c'est au Val-de-Grâce. Comté, il ne fallait pas oublier Comté, c'est en 1852. Geoffroy Saint-Hilaire, il avait eu beaucoup de soucis avec Geoffroy Saint-Hilaire, mais ça n'empêche pas, voilà, on fait un monument à Étampes ce coup-ci. Le problème quand vous êtes le dernier, c'est qu'en fait il n'y a plus personne qui pense à vous, donc il n'y aura pas de monument pour Jomard. Personne n'y a songé, visiblement. Les honneurs arrivent de partout à la fin de sa vie, hein. En 1856, il est fait bey par Saïd Pacha, le dernier fils de Mehemet Ali, donc là une grande distinction égyptienne, bien évidemment. Saïd Pacha qui envoie d'ailleurs une vingtaine de jeunes Égyptiens pour aller se former à Paris. Jomard est bien évidemment membre du comité d'études et de surveillance de cette... C'est pas une école, mais c'est un temps, il en fait partie, ça va de soi. Il vit assez longtemps quand même pour voir qu'une des erreurs véhiculées par la description est mise au grand jour. Vous savez qu'un des savants avait calculé une différence de 9 mètres entre le niveau de la mer Rouge et celui de la Méditerranée, en disant qu'on ne pourrait pas construire de canal ici, puisqu'il y a 9 mètres, et que si on ouvrait, mon Dieu, tout allait se déverser. Aussi. Alors, pendant 30-40 ans, on s'est dit, on a suivi l'avis de Lepère, hein, qui avait fait ce mauvais calcul, puis on s'est dit quand même, c'est curieux. Et donc on va demander à un ingénieur français, Linon de Belfond, qui est en Égypte, de refaire les calculs en 1853, et qui dit qu'en gros, il n'y a pas de différence significative, le niveau de la mer, c'est le niveau de la mer aussi, ce qui est étonnant. Et c'est en 1854 que Linon de Belfond écrit à Jomard en lui disant, Monsieur Ferdinand de Lesseps a été autorisé par le Pacha à créer une compagnie pour le canal de Suez. Jomard met aussitôt son énergie à faire connaître l'idée dans les sociétés savantes, sociétés de géographie, etc. En 1857, il fait envoyer par la Société de géographie à l'ESEPT une lettre de félicitations et d'encouragement en échange de bons procédés. Le 20 décembre 1858, C'est la première réunion du conseil d'administration de la Société du Canal de Suez. L'ESSEPS est assisté dans cette réunion de trois présidents honoraires, dont Jomard, il est présent pour la constitution de ce conseil d'administration. Et quand la délégation des promoteurs du canal de Suez est reçue par Napoléon III en octobre 1858, qui croyez-vous qu'il soit présent? Évidemment, notre bon Jomard, ça va de soi. La seule chose qu'il ne verra pas, évidemment, c'est la fin de la construction du canal de Suez en 1869. Sa seule consolation en Égypte, c'est qu'il voit la résurrection en 1859 de l'Institut égyptien du Caire. On va recréer, c'est l'institut que Bonaparte avait créé en 1798, ce coup-ci autour de Mariette. Évidemment, Jomard, c'est sans doute l'un des derniers Égyptiens vivants à l'époque. Il est nommé membre honoraire de l'Institut, puis président honoraire, et il rédige l'introduction du premier volume des mémoires de cet institut. Dernière décoration qu'il reçoit, 1861, le mérite civil de Prusse, la plus haute décoration, et Lepsius qui est à l'époque le grand égyptologue allemand, prussien plutôt, lui écrit « J'éprouve une grande satisfaction que le Nestor de tous les égyptologues soit distingué ici. Que Dieu vous fasse jouir encore bien longtemps de celle-ci et de toutes les gloires que vous avez remportées pendant une vie active et pleine de mérite comme peu d'autres. » Alors Nestor, c'est quelqu'un de plus âgé, sans doute Jomard était le doyen à l'époque. Ceci dit, c'était un peu flatteur, le Nestor de tous les égyptologues, on ne peut pas considérer que Jomard soit un égyptologue. C'est un savant égyptien, ok, mais pas du tout un égyptologue comme Champollion. Voilà. En tout cas, ça a dû lui faire plaisir. Autre gloire, il termine, comme commandeur de la Légion d'honneur en 1862, ici, vous voyez le document qui le lui apprend. Et puis le 31 mars 1862, il réunit pour la dernière fois pour lui, en tout cas, le banquet des Égyptiens. Ici où il prononce un discours, il rappelle les deux derniers Égyptiens morts l'année précédente, enfin durant l'année depuis le dernier banquet, et en gros il explique qu'il est quasiment l'un des derniers aussi. Les ennuis de santé l'ont déjà rattrapé. Alors, dès 1846, il écrit une lettre à un de ses amis, il a 68 ans, mais elle est intéressante cette lettre, je vous la cite. « Les années sont venues chez moi, l'activité réelle est partie avec les yeux, ces problèmes des yeux. Le cœur n'a rien perdu, mais comment agir ? Comment avancer quand les organes vous arrêtent ? Qu'est-ce que la santé, nous dit-il ? C'est le pouvoir de travailler. Voilà ma définition, le pouvoir de travailler. Ça résume bien la vie de Jomard. Et je me regarde comme bien malade, puisqu'il me faut 2 jours là où je mettais 2 heures. La nuit étant insomne, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu écrire, je répare la perte des forces par un séjour plus prolongé dans le lit de douleur. Souvent, à 8h30, ô honte, j'y repose encore, mais sans sommeil. Pendant ce temps, je lis. Il faut bien lire un peu de tout ce qui s'écrit, et jamais on a tant écrit. Les yeux s'en vont et il faut lire. Comment faire ? Voilà, c'est le problème de Jomard, l'état de santé qui n'est pas très bon. Il arrive à fréquenter jusqu'au bout la plupart des sociétés savantes, il y va à pied. Le 19 septembre 1862, il lit encore à l'Académie des inscriptions une communication sur l'Égypte, bien sûr. Le 22 septembre, au soir, il s'enferme dans son cabinet de travail, comme chaque soir. Et puis c'est là que le 23 au matin, son fidèle valet va le retrouver, assis à son bureau, en position de travail. C'est tout lui. Il est enterré. Alors, je n'ai pas parlé de sa maison de campagne à Lozère. C'est à côté de Palaiseau, hein, ce n'est pas le département de la Lozère, c'est un petit abo. Donc il avait de l'argent ici. Donc vous voyez les deux photos, j'y reviendrai après. Mais par contre, voilà, la tombe de Jomard au Père Lachaise, pas très loin de celle de Champollion, bien sûr, qui a aussi un obélisque, ça va de soi, également, donc on est rattrapé partout. Vous voyez évidemment le globe géographique, les livres qu'il a écrits, puis sa fille a tenu à mettre en avant, a écrit, il avait la passion pour la science et la passion du bien public, ce qui est tout à fait vrai. Donc une vie aussi longue que bien remplie, qui mérite, j'espère, vous en avoir convaincu, d'être connu. Il a fait beaucoup de choses, dans des très nombreux domaines, et peut-être un peu trop, parce que là, je vous ai balayé en quelques temps, mais énormément de choses. J'ai passé beaucoup d'autres choses qu'il a faites encore. Et en fait, à force de toucher à tout, on peut se demander si son problème, c'est qu'il ne laisse pas un gros morceau, entre guillemets. Alors oui, il y a bien la description, c'est une œuvre considérable. Il en a été l'architecte, le principal auteur.
Mais c'est d'abord vu comme une œuvre collective de savants, et puis en fait, la description, elle est associée à Bonaparte, pas à Jomard. Là, Bonaparte, lui, il grille la vedette, quelque part. Il y a les départements des cartes et plans. Il n'a pas rien fait, hein. C'est lui qui le fonde, c'est grâce à lui qu'on doit ce département. Mais entre nous soit dit, la géographie en France, hein, c'est peut-être moins célèbre et populaire que l'Égypte, que l'égyptologie, par exemple. Et l'égyptologie, ben, c'est la blessure de Jomard, hein, il a été complètement éclipsé par ce Champollion, c'est son drame. Champollion, en somme, a eu des génies. Jomard, lui, n'a eu que du talent. Et ça ne suffisait peut-être pas pour rester dans la mémoire nationale aujourd'hui. Et c'est bien dommage. Voilà, s'il y a peut-être quelques questions sur ce Jomard.
Eh bien, merci beaucoup. Les absents ont eu tort une fois de plus. On a appris beaucoup de choses. Même moi qui connaissais déjà un peu l'histoire, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, merci. Donc, si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment. Mais là, on a été un petit peu inondé d'informations. Hein, voilà. Alors, vous avez des questions à poser ? Je vais en poser des questions. Des petites précisions par rapport à ce que vous avez dit. Rappelez qui était Pankouk, l'édition Pankouk, parce que ceux qui n'ont pas écouté les choses sur l'encyclopédie sont pas familiers avec Pankouk.
Exactement. Pankouk, c'est un éditeur qui édite en France et qui a, au XVIIIe siècle, une idée de génie quelque part. Alors, vous savez que Diderot et d'Alembert avaient fait paraître bien difficilement. Ça a pris quasiment autant de temps que la description de l'Égypte, et je pense qu'il y aurait beaucoup de parallèles à faire entre la description de l'Égypte et l'encyclopédie de Diderot et de d'Alembert, avec une différence gigantesque, c'est que Diderot, il va en prison parce qu'il n'est pas soutenu par l'État, alors que Jomard, lui, il est payé par l'État. Et à mon avis, d'ailleurs, s'il avait travaillé un peu plus vite, on n'aurait pas mis 27 ans pour publier ici. Mais voilà. Et donc l'idée de Pankouk, c'est que les volumes de l'encyclopédie soient édités dans une seconde édition qui soit beaucoup moins chère. Alors évidemment, elle est plus petite, hein, c'est in octavo et pas les beaux formats de. Alors je parle de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais ça permet de la vendre à beaucoup plus de public et de rentabiliser l'édition. C'est d'autant plus rentable que les auteurs ont déjà été payés pour la première édition aussi, et donc c'est un plus. Pour l'éditeur, ça lui coûte pas très cher. Donc on prend les cuivres des planches et puis on les réédite, puis on réédite le texte dans une petite édition, et ça se vend beaucoup mieux que la première édition. Il a la même idée pour la description de l'Égypte, et donc on va alors il va prendre les cuivres, puisque c'est la description de l'Égypte, c'est ce qu'on appelle une calcographie, hein, ici tous les cuivres sont prêts, ça avait pris un temps fou à réaliser et ça avait coûté une fortune. La seule chose, c'est qu'il va rajouter un timbre à sec, et c'est comme ça qu'on peut reconnaître aujourd'hui les planches de la première édition des planches de la deuxième édition. Si vous regardez en haut à droite, il y a un petit timbre où on voit, alors pas imprimé, il est à sec bien sûr, dans le papier, dans lequel on voit un obélisque avec sur un sphinx. Ici, c'est une planche de la seconde édition, donc les mêmes cuivres, mais pas la première édition. Et puis, le texte, les fameux 7000 pages de texte, il va les publier, là aussi, en petit format, parce que c'était gigantesque. C'était tellement gigantesque que c'était ingérable. Il y a un égyptologue qui dit qu'il faut deux personnes pour mettre la description de l'Égypte pour l'ouvrir sur son bureau. Aussi que, il y en a un autre qui dit d'ailleurs que ceux qui ont les moyens de se la payer, cette description de l'Égypte, sont ceux qui n'ont pas d'intérêt à la lire, quelque part aussi, et que ceux qui auraient intérêt à la lire ne peuvent pas se la payer. Donc l'avantage des éditions Pankouk, c'est que ça coûte 3-4 fois moins cher et ça permet d'être diffusé. Elle a été vendue, alors que la description napoléonienne du ministère de l'Intérieur n'a pas du tout été vendue. Voilà, je ne sais pas si ça précise un peu les choses.
Oui, une autre précision, redite la raison. Vous avez très souvent parlé de Champollion-Figeac. Il faut expliquer pourquoi il a pris ce deuxième nom lié à l'histoire des Champollions.
Donc, exactement.
Réexpliquer ça. Voilà.
C'est pareil que pour Jomard, pardon. Et le parallélisme, là encore, il est absolument étonnant. L'aîné, Jacques-Joseph Champollion, c'est lui qui va s'occuper de l'éducation de son frère, tout simplement parce que le jeune Champollion perd son père assez rapidement aussi. Et pour distinguer distinguer les deux noms, Jacques-Joseph Champollion va rajouter son nom Figeac, parce que il est originaire de Figeac avant de passer à Grenoble, et puis il va désigner son frère comme Champollion le jeune, parce qu'il est plus jeune. Mais Jomard, c'est pareil. Edmé Jomard, c'est Jomard aîné, et son frère va être désigné comme Jomard jeune. Ouais. Alors la seule difficulté, pourquoi est-ce qu'on ne parlera pas de Jomard aîné? Parce que tout simplement, le frère de Jomard va rester... Alors, il va servir dans l'armée napoléonienne hein, comme officier. Il finit lui aussi avec la Légion d'honneur, pas commandeur, mais il doit être simplement officier. Et il a rien écrit, c'est-à-dire qu'il a été élève géographe à l'expédition d'Égypte, mais il n'a rien publié du tout. Donc Jomard, dans les années 1820-1810, n'a pas besoin de s'appeler Jomard aîné, n'a plus besoin de s'appeler Jomard aîné, parce que son nom n'est pas gêné, son nom de lettre, dans les publications. Alors que Champollion, il faut distinguer un Champollion Figeac, l'aîné, d'un Champollion le jeune, parce que tous les deux, ils se présentent à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en fait.
Et rappelez que Champollion Figeac a publié toutes les œuvres de son frère, qui était décédé des suites de son voyage en Égypte, sous le nom de Champollion Figeac.
Oui, il a obtenu un crédit du ministère de l'Intérieur, parce qu'à l'époque, c'est la puissance publique qui le fait, hein, pour publier le voyage avec ses publiés. Alors, c'est quand même sous le nom de Champollion et d'Ippolito Rosellini, parce que c'était une expédition franco-toscane à l'époque. Mais Champollion, le jeune, pour le coup, n'a eu le temps de rien publier, et c'est Champollion Figeac qui va tout faire publier, y compris la grande-mère de Champollion, qui est qu'il appelle ce qu'on a appelé la carte de postérité de Champollion pour l'éternité, aussi, puisque c'est dans cette grande-mère qu'il indique les principes, enfin, qu'il développe les principes de l'écriture hiéroglyphique.
La Société de Géographie, rappelez que la Société de Géographie de 1822, comme vous l'avez dit, est la première société de géographie qui ait jamais existé dans le monde entier. Vous savez ça?
Et oui, mais avec ce que je vous ai dit aussi, effectivement, la société britannique qui va très vite concurrencer.
Voilà.
La concurrence ne se fait pas que dans le domaine de la géographie, c'est partout. Hein. Oui, oui. Même Champollion l'a découvert, c'est Arthur Young,
Young. Young. Hein.
J'ai oublié son prénom, mais le britannique Young,
Arthur savant, Young. Le physicien.
Lui aussi conteste la paternité française de la découverte des hiéroglyphes, et nos meilleurs ennemis, ce sont les Britanniques à l'époque, c'est pas l'entente cordiale, pas encore aussi, et à chaque fois, j'en ai parlé pour Tombouctou, mais c'est pareil, hein, dès qu'il s'agit de critiquer, les Français critiquent aussi les Britanniques, ouais, de l'autre côté, hein, ne vous inquiétez pas aussi.
Oui, mais pour une fois, les Français ont été les premiers, et donc ça s'appelait la Société de Géographie, point. C'est-à-dire, on ne disait pas la Société française ou royale de géographie, c'est la Société de géographie. Et un des présidents célèbres, je vous le cite quand même, ça a été Alexander von Humboldt, dont je vous ai parlé il y a quelque temps. Voilà.
Et qui est un correspondant de Jomard.
Bien sûr, mais lui, il a voyagé.
Ah oui, un vrai géographe.
Lui a voyagé. D'autres questions? Donc je rappelle qu'à l'UTB, nous possédons une réplique à l'échelle 1 de la pierre de Rosette qui est dans la salle E, là où on fait certains groupes de travail, qui est au-dessus de la cheminée. Hein. Nous avons une conférence sur les Champollions il y a déjà quelques années, donc elle est dans la boîte et dans la boîte à musique. Et nous possédons, pour ceux les plus anciens de l'UTB, le zodiaque de Dendera à l'échelle 1. En carton-pâte, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Mais à l'échelle 1, ça fait 2,50 m au carré. Et pour le moment, il est exposé à l'espace des arts jusqu'à ce qu'on nous chasse de l'espace des arts. Et puis maintenant, il est dans les remises de la ville de Châlons, puisqu'on n'a pas d'endroit. On a fait des études quand on est allé rue Saint-Georges. On a regardé, on n'arrivait pas à la monter dans l'escalier, c'était pas possible. Ça aurait tenu dans la salle principale, hein, en hauteur, j'avais regardé. Mais bon, voilà. Donc un jour, si on pourra leur sortir des choses. Et puis, la dernière chose, l'annonce que je vais vous faire. On va refaire une animation sur la description d'Égypte, puisque vous savez que la bibliothèque municipale de Châlons possède la collection complète, sans le meuble, mais on n'a pas besoin du meuble. À Mâcon, il y a le meuble, mais à Châlons, il n'y a pas le meuble. Et donc, on peut voir ces choses absolument extraordinaires, puisque la taille, il a fallu faire des presses spéciales pour arriver à ce que le rendu soit bien uniforme sur toute la surface. Ça fait un mètre carré, une page, ça fait un mètre carré.
Oui, on a créé un format spécifique qui s'appelle Grand Éléphant.
Voilà. C'est du super in-folio, voilà. Grâce à une machine inventée par M. Comté, j'en parlais en aparté, là, parce que vous savez, pour faire des dégradés des ciels, par exemple, très uniformes, un ciel grisé, il faut faire des lignes parallèles bien, bien régulières, et à la main, même les meilleurs graveurs n'y arrivent pas. Alors, M. Comté, qui était l'ingénieur, le gars au bandeau, là, qui était l'ingénieur de l'expédition d'Égypte, a fait une machine qui permet, une machine à tracer des traits, finalement, qui permet de faire des fonds bien réguliers. Voilà. Donc, on fera ça sûrement au printemps. J'ai pris contact déjà avec Mme Johannel, qui est la conservatrice de ce magnifique exemplaire, et qui m'a dit, ben, on va mettre ça en musique. Et donc, on invitera bien sûr M. Gadi pour cette animation. Donc, on fera ça tous ensemble. Voilà. Je vous remercie et à bientôt. Donc, demain, c'est Fourier. Donc, on l'a cité longuement. Donc Fourier, qui a été préfet de l'Isère, entre autres, mathématicien célèbre, et qui a été le protecteur, de fait, des Champollions quand ils étaient à Grenoble.
Ah oui.
Voilà.